إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. Donc nous entamons inshallah le quatrième cours. Vous nous excuserez, ce n'était pas prévu, mais du fait que je n'ai pas terminé le cours, j'ai demandé, puisqu'on a du temps devant nous, bien que ça prenne dans votre heure de pause, mais inshallah que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala vous soit accordée. Donc, on continue donc avec le cours concernant le mois de Ramadan du Cheikh Al-Allam Al-Mufti Abdelaziz ibn Abdillah Al-Sheikh Hafidhahullahu ta'ala. Il nous dit: ثم إنه يحسن هنا التنبيه لبعض الأمور. Puis il est préférable, il est bien de préciser ou de citer quelques points essentiels. أولاً, premièrement, أن النية في شهر رمضان واجبة, que l'intention durant le mois de Ramadan est une obligation. ويكفي أن ينوي العبد المسلم أنه سيصوم رمضان في أول شهر. Et il suffit pour le serviteur musulman d'en avoir l'intention au début du mois de Ramadan, comme quoi il va jeûner tout le mois. ويستصحب حكمها بقية الشهر. Et il reste accompagné par cette intention pendant tout le restant de ce mois. بمعنى ألا يقطع الصيام لا بفعله ولا بنيته. C'est-à-dire qu'il ne coupe pas son jeûne, non pas par un acte et non pas par son intention. C'est-à-dire que si pendant ce mois, il lui est arrivé de ne pas jeûner, donc cette intention qu'il a eue en début de mois, elle a été coupée par cela. Donc il n'a pas jeûné pendant quelques jours pour X raisons. Donc de ce fait, il se devra d'avoir une nouvelle intention pour reprendre le jeûne. Ou alors, il a eu l'intention de ne pas jeûner, alors là, il se devra d'avoir une nouvelle intention comme quoi il va jeûner. فَإِنْ قَطَعَهُ بِفِعْلٍ أَوْ بِنِيَّةٍ لَزِمَهُ اسْتِئْنَافْ نِيَّةٍ جَدِيدًا. Donc s'il vient à couper cette intention initiale de par son action ou de par son intention, il se devra une obligation pour lui de faire une nouvelle intention. وأمر النية قد يشكل على كثير من المسلمين. Et le sujet de l'intention peut être quelque chose de peut être problématique pour beaucoup de musulmans. وقد يورث عند بعضهم الوسواس. Et cela même peut ramener الوسواس chez certains. Hein, الوسواس, c'est ces mauvaises suggestions qui perturbent la personne, qui lui font croire qu'il n'a pas fait la chose convenablement, qu'il ne l'a pas fait véritablement, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle le waswas. Quelqu'un qui fait les ablutions à titre d'exemple, hein, et ben, il reste très longtemps dans l'endroit parce qu'il pense qu'il n'a pas bien lavé les membres, parce qu'il pense qu'il n'a pas lavé tel membre, il n'a pas fait la chose convenablement. Pendant la prière, c'est une chose intérieure qui vient perturber la personne. Et le meilleur remède de le waswas, c'est de ne pas l'écouter. D'agir et de partir et de ne pas l'écouter. Ça, c'est Shaitan qui vient embêter la personne pour au final l'amener à délaisser complètement l'adoration. Wal'iyadhu billah. Wa huwa amrun yasir. Alors que c'est une chose simple. Fanniyatu innama hiya al'azmu 'ala as-siyam. L'intention, c'est la ferme envie, de jeûner. Hein, c'est un acte qui provient de l'intérieur, qui est donc ferme, comme quoi la personne elle a envie de jeûner. Et aussi, on m'a fait la remarque, lorsque je parlais hier sur les conditions du repentir, et je disais qu'il est la ferme conviction de ne pas revenir au péché. Il aurait été préférable de dire qu'il est la ferme intention de ne pas revenir au péché. Bien que ça se rapproche un peu, mais si c'est le mot le plus approprié, autant garder ce mot-là qui est la ferme intention de ne plus revenir au péché. والعبد المسلم منذ أن يعلم أن غدا من رمضان وهو عازم على صيامه إلا إن كان فيه مانع من الموانع ومحل النية القلب ولا يجوز التلفظ بها. Et le serviteur musulman, dès qu'il a su que demain ce sera le premier jour de Ramadan, il a la ferme intention de jeûner, sauf s'il y a un empêchement qui vient lui empêcher cela. Et l'endroit, le lieu de l'intention, c'est le cœur, et il n'est pas permis de le formuler. Ce n'est pas permis de dire verbalement, demain je vais jeûner, j'ai l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan. Ça, c'est à l'intérieur du cœur, et on n'a pas à le formuler. Comme certains, avant de faire la prière, avant de lever la main, il dit la prière de Dhuhr, 4 rak'at, à voix basse, tel jour, telle date. Tout ça, ce sont des innovations. Ça n'existe pas en islam. Dans tous les actes qu'on accomplit, il faut l'intention. Et l'intention, elle est dans le cœur. Et on ne formule l'intention que lorsque cela est demandé, comme pour le pèlerinage ou la umrah. Quand lorsqu'on dit, après s'être mis en état de sacralisation, et donc on la formule en disant Allahumma labbayka hajj, Allahumma labbayka umrah, Allahumma labbayka umrah wa hajj. Oh Allah, je viens à toi avec un pèlerinage, je viens à toi avec une umrah, je viens à toi avec un hajj et une umrah. Là, on le formule pourquoi? Parce que c'est l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Sinon, si on n'a pas un texte qui nous précise la formulation, la règle de base, c'est que l'intention est un acte qui vient du cœur, de l'intérieur, et c'est une innovation que de le formuler. Thaniyan, deuxièmement, yanbaghi lil muslimin an yahrisu ala sunnah fi ta'jil al futur. Et il est un devoir pour le musulman de s'empresser d'appliquer la sunna dans l'empressement de la rupture du jeûne. On n'a pas à retarder la rupture du jeûne. Dès que le muazzin dit Allahu Akbar pour l'entrée de l'heure de l'maghrib, on commence à rompre son jeûne. Dès qu'on sait que c'est l'heure du coucher, c'est le moment du coucher du soleil, on se doit de s'empresser d'aller rompre son jeûne, et non pas d'attendre, hein, de dire il n'y a rien qui presse, hein, ou de croire que c'est un... Non, celui qui ne s'empresse pas, il fait le contraire de la sunna. Il est en contradiction avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ce n'est pas demandé d'attendre la fin de l'adhan. Non, dès qu'il commence l'adhan, c'est l'entrée de l'heure de l'maghrib, on commence à rompre son jeûne. Les hadithi Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la yazalu an-nas bi khayr ma ajjalu al-fitr, muttafaq alayh. Donc, et la preuve, c'est le hadith de Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens ne cessent d'être dans le bien tant qu'ils s'empressent de rompre le jeûne. rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa fi ta'khir as-suhur ja'a hadith Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam thumma qumna ila as-salati qultu ay ar-rawi an Zayd kam kana qadru dhalika qala 50 ayah muttafaq alayh. Et parmi la sunna qu'il faut appliquer, il y a de retarder le repas de fin de nuit qu'on appelle as-suhur parce qu'il est pris à cet horaire qui est le dernier tiers de la nuit un peu avant le fajr qu'on l'appelle as-sahar. Il s'appelle ce temps-là, il s'appelle comment? Il s'appelle as-sahar. Et de là vient le terme as-suhur pour le repas qui est pris pendant ce moment-là. Donc de ne pas prendre le repas de fin de nuit, c'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut prendre ce repas dans la fin de la nuit, car dedans il y a une bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tasahharu fa inna fis sahuri baraka. Prenez le repas de fin de nuit, car là-dedans il y a une bénédiction. Donc la personne, elle fait cela en premier lieu par obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme suivi de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et l'argument de la preuve de cela, c'est le hadith de Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu qui dit: nous avons pris le repas de fin de nuit, le suhur, avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis nous nous sommes levés pour la prière, c'est-à-dire la prière de l'Fajr. Le tabi'i qui rapporte le hadith dit, j'ai dit, c'est-à-dire à Zayd, au compagnon, combien il y avait de temps entre cette prise de repas et la prière de l'Fajr? Et le compagnon Zayd ibn Thabit radiallahu anhu a dit l'équivalent de la lecture de 50 versets. L'équivalent de la lecture de 50 versets, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est pour vous dire qu'il l'a vraiment retardé. Thalithan, troisièmement, yulahadhu ala kathirin min al-muslimin as-sahru fi layali hadha ash-shahr al-karim ala al-malhiyat. On remarque que beaucoup de musulmans veillent pendant les nuits de Ramadan sur des loisirs ou des choses qui les occupent, qui n'ont, si on peut dire, pas de valeur, inutiles, mais alors que dire lorsque ce sont des choses qui sont déconseillées ou même des choses qui sont interdites. Hatta idha qtaraba waqtu sahar namu. Et lorsque l'heure de sahar, cette fin de nuit, approche, alors là, ils sont pris par le sommeil. Subhanallah. Ils font ce qu'ils n'auraient pas demandé, qui est de veiller la nuit, à passer leur temps dans des choses, au meilleur des cas, est inutile. Que dire lorsque c'est dans l'interdit? Et pour au final, s'endormir avant la prise de ce repas de fin de nuit, alors que là c'est demandé. فَفَاتَهُمْ فَضْلُ السُّحُورِ وَفَضْلُ إِدْرَاكِ وقت النزول الالهي. Et qu'est-ce qu'ils perdent en faisant cela? La vertu de ce repas de fin de nuit. Et aussi, qu'est-ce qu'ils perdent? Ce moment où le Seigneur subhanahu wa ta'ala descend au plus bas ciel pour exaucer l'invocation de celui qui l'invoque, donner son pardon à celui qui lui demande le pardon et donner son refuge à celui qui le lui demande. Puisque le Seigneur descend au plus bas ciel, au dernier tiers de chaque nuit, au dernier tiers de la nuit. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, c'est ce moment-là où ils sont pris par le sommeil et ils perdent tout cela.
وَرُبَّمَا فَاتَتْهُمْ صَلَاتُ الْفَجْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ.
Bien pire que cela. Et il se peut que ces gens-là, ils viennent à perdre la prière de l'Fajr en son temps et en son heure, qu'Allah nous préserve. فالواجب على العبد الحزم في ذلك. Donc il est un devoir pour le serviteur d'être ferme là-dessus, de ne pas tomber dans des choses semblables. وأن يجعل شهره هذا موسما للازدياد من الطاعات. Et qu'il fasse de son mois un mois dans lequel il augmente en obéissance et en adoration. وأن لا ينشغل بما يصده عن الله من الملهيات. Et qu'il ne soit pas préoccupé par des préoccupations qui l'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن العبادات المشروعة في هذا الشهر الكريم عبادة القيام. Et parmi les adorations légiférées pendant ce noble mois, ce mois honorable, il y a l'adoration du qiyam, l'adoration de la prière de la nuit qu'on appelle at-tarawih, qiyamul layl, fa innahu da'bu as-salihin, la prière de la nuit qui est la bonne habitude des vertueux. Wa qad shara'ahu Allah li nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam wa li ummatihi fi kulli ayyam al-'am, bal kana wajiban 'alayhim. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté pendant chaque nuit de toute l'année de faire qiyam al-layl. Même plus, cela au début de l'islam, au début de la révélation, était une obligation pour les compagnons. Il était obligatoire pour eux de faire qiyam al-layl. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé cette obligation et c'est resté pour eux seulement un acte recommandé. Il aura facilité la chose. Yaqulullah, Allah nous dit dans le Coran, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. Dans le sens des versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ton Seigneur sait certes que tu te tiens debout moins de deux tiers de la nuit, ou sa moitié ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais en faire le compte exact. Par conséquent, il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible de Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. وَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِقِيَامِ اللَّيْلِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges à ses serviteurs croyants qui accomplissent les prières de la nuit. Faqal, et il dit: kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. C'est-à-dire dans le sens du verset: et ils dormaient très peu pendant la nuit. Wa salatu al-layl hiya afdalu as-salawati ba'da al-fara'id. Et la prière de la nuit est la meilleure des prières après les prières obligatoires. Fa'an Abi Hurayrata رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال الصلاة في جوف الليل. الحديث رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي d'après Abu Huraira رضي الله عنه qui dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut questionné quelle est la meilleure prière après la prière obligatoire, la prière prescrite. Il répondit alayhi salatu wa salam la prière dans la nuit. Le hadith rapporté par Muslim et Abu Daoud et At-Tirmidhi et An-Nasa'i rahimallahu al-jami'. Wal afdal ta'khir qiyam al-layl ila jawf al-layl liman wathiqa bil qiyam. Et le meilleur, c'est de retarder la prière de nuit vers la fin de la nuit pour celui qui en est capable. Fa'an Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Pour celui qui est sûr de se lever pour cette prière. Fa'an Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد d'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui craint de ne pas se lever à la fin de la nuit, alors qu'il fasse le witr, puis qu'il s'endorme. Et celui qui sait qu'il va se lever pour la fin de la nuit, alors qu'il ne fasse le witr qu'à la fin de la nuit, car la lecture de la fin de la nuit est témoignée. Et ceci est bien meilleur. Rapporté par Ahmed, par Muslim, et At-Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmed, rahimallahu al-jami'. C'est-à-dire que la prière de la fin de la nuit, elle est assistée par les anges. Wal aslu fi salati al-layl an takuna mathna mathna thumma yutir bi wahida. Et à la base, la prière de la nuit se fait par deux rak'at. Puis on termine, on clôt cette prière par une seule rak'a, pour que au final, ce soit une prière impaire. Fa'an ibn Umar radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an salati al-layl faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salatu al-layl mathna mathna فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه. Et d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qui dit un homme a questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur la prière de la nuit. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: la prière de la nuit, c'est deux rak'a. Et lorsque l'un d'entre vous craint l'entrée de l'aube ou l'approche de l'aube, alors qu'il fasse une rak'a qui viendra à rendre sa prière impaire. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que s'il a fait deux rak'a, avec cette rak'a, ça fera trois. S'il en a fait cinq, s'il en a fait quatre, ça fera cinq. S'il en a fait sept, ça fera neuf. S'il en a fait 10, ça fera 11. Au final, il se retrouve avec une prière impaire, avec cette rak'a qu'il rajoute. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wal afdal an yahtima salatahu bil-layl ala witr. Et le meilleur, c'est qu'il termine sa prière de nuit par un nombre impair. Li hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal ij'alu آخر صلاتكم بالليل وترا. Pour le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites de votre prière de fin de nuit impair. Wala hadda li salati al-layl fa in salla 11 rak'a fa hasan wa in salla 13 fa hasan aydan. Et il n'y a pas de limite pour le nombre de rak'a à faire dans la prière de la nuit. S'il vient prier 11 rak'a, c'est bien. S'il vient prier 13 rak'a, c'est bien. Fa inna hadha مما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها car cela était l'action qu'avait l'habitude de faire le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم comme cela est rapporté d'après la mère des croyants عائشة رضي الله تعالى عنها وإن صلى ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو زاد فصلى خمس عشرة أو سبع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاثا وعشرين أو أكثر من ذلك فلا بأس إذا قطعها على وتر. Et si jamais il prie trois ou cinq ou sept ou neuf ou il rajoute en priant quinze ou dix-sept ou vingt-et-un ou vingt-trois ou plus, il n'y a pas de mal en cela tant qu'il termine par une rak'a. لأن الأصل في صلاة الليل عدم التحديد car à la base pour la prière de la nuit il n'y a pas de limite كما تقدم من الآية comme on l'a vu précédemment avec le verset. J'ouvre une petite parenthèse. Comme on le voit, le shir défend la vie qu'il pense être la vérité sur les questions parce qu'on me pose beaucoup de questions depuis sur beaucoup de questions sur beaucoup de points. Les ulama divergent sur certaines questions. Les ulama de la sunna divergent sur certaines questions. Donc le shir, lorsqu'il parle, il parle de ce qui est pour lui la véritable réponse. Et la réponse la plus authentique. D'autres savants peuvent avoir d'autres opinions. Et on n'a pas à avoir un acharnement ou un attachement aveugle là-dessus. La personne qui est convaincue par une opinion dans laquelle il y a une divergence, il applique ce par quoi il est convaincu en lui-même. Mais il ne se doit pas d'avoir un reproche envers celui qui est convaincu par une autre opinion, qui est une opinion des gens de la sunna. J'ai entendu Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans la mosquée sacrée, parler sur cette question-là. Et Cheikh Al-Uthaymin, il est de cet avis, qu'on peut faire plus que 11. Et il dit, dites-moi les jeunes, dans l'essence de ces paroles, pensez-vous que vous aimez la sunna plus que moi? Pensez aimer la sunna plus que moi? Wallahi, la sunna est plus aimée auprès de nous que vous. Mais voilà où notre effort de réflexion nous a amenés. Ça, c'est important d'être bien éduqué. Tu es convaincu par un avis, soit un avis de ulama, de la sunna, soit. Mais distingue les questions sur lesquelles il y a des divergences reconnues et les questions sur lesquelles Ahl sunnati wal jama'a ne divergent pas. Il faut bien distinguer cela. Barakallahu fikum. Tayyib. Ça concerne une personne lui-même, ou lorsque lui, il préside. Mais si lui, il est derrière l'imam, le meilleur pour lui, c'est de suivre l'imam, même si l'imam est en contradiction avec sa conviction sur la question. Parce que là, son avis personnel n'est pas demandé. Mais c'est l'imam qui en prend la responsabilité. Et donc, il suit l'imam. Et non pas de montrer de la division sur cette question-là dans une ibad qui se fait en deux. لأن الأصل في صلاة الليل عدم التحديد كما تقدم من الآية. Donc il dit, parce qu'à la base, pour les prières de la nuit, il n'y a pas de limite, comme nous l'avons vu précédemment dans le verset. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم صلاة الليل مثنى مثنى. Et pour le hadith précédent de Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, la prière de la nuit, c'est deux rak'a. وهذا جواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن صلاة الليل. Et voilà la réponse du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم à celui qui l'a questionné sur la prière de la nuit. ولو كانت محدودة بعدد قلة وكثرة لبين ذلك له. Et si cette prière de la nuit, elle était limitée par un nombre qui soit peu ou beaucoup, le prophète l'aurait précisé. Il l'aurait précisé. والمسلم ينبغي ألا يغفل عن صلاة الليل. Et le musulman ne doit pas être insouciant sur la question de la prière de la nuit. وإن لم يدرك ذلك فلا أقل من الوتر. Et s'il n'a pas fait la prière de la nuit, au moins qu'il fasse le witr.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه أدي mon ami intime, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a recommandé trois choses. De jeûner trois jours par mois, c'est-à-dire de jeûner au milieu de chaque mois lunaire, le 13, le 14, le 15, c'est les jours de pleine lune. Et les deux rak'at de duha, c'est-à-dire les deux rak'at sunna qu'on fait en plein milieu de la matinée. Et de faire al-witr avant de dormir. Muttafaqun alayh, rapporté par al-Bukhari et Muslim. Hadha wa inna qiyam al-layl la yata'akkad fi Ramadan wa yazid fihi al-ajr wal-fadl. Ceci est la prière de la nuit pendant le mois de Ramadan est encore plus demandée, plus recommandée et sa récompense et sa vertu elle augmente. Yaqulu an-nabi صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الجماعة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui fait les prières de nuit de Ramadan, qui fait les prières de nuit du mois de Ramadan avec foi, comme quoi c'est bien légiféré, demandé par Allah subhanahu wa ta'ala est institué par son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam et qui en attend la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés antérieurs lui sont pardonnés, rapporté par l'imam Ahmed et les six auteurs des six livres. Wa yushra'u fi hadha ash-shahr al-karim qiyam al-layl jama'atan wa huwa ma yusamma bit-tarawih. Et il est légiféré pendant ce mois béni de faire la prière de la nuit en groupe. Car pendant toute l'année, la prière de la nuit, elle est individuelle, personnelle. Mais pendant le mois de Ramadan, la sunna veut que ça soit fait en groupe. Et c'est ce qu'on appelle la prière de At-Tarawih. Faqad sahha 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam أنه فعل ذلك مع أصحابه رضي الله عنهم ثلاث ليال. Il a été authentifié que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a accompli avec ses compagnons pendant trois nuits. أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين. Nous a informé de cela عائشة radiallahu anhu, anha, comme on retrouve cela dans les deux authentiques de Bukhari et de Muslim. Wa qad sannahu Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu tiwal al-shahr wa hadha thabit anhu fi sahihayn aydan. Et cela fut aussi institué par le calife bien guidé Umar ibn al-Khattab, le prince des croyants radiallahu anhu, pendant tout le mois de Ramadan, comme cela a été rapporté de lui authentiquement dans les deux authentiques de Bukhari et Muslim aussi. Wa yanbaghi lil imam mura'atu hali ma'mumih quwwatan wa dha'fa. Et il est demandé, il est important que l'imam qui préside cette prière qu'il fasse attention aux gens qui prient derrière lui, est-ce qu'ils ont la force ou la faiblesse pendant cette prière. Donc il fasse sa prière selon l'état de la communauté qui est avec lui, qui prie avec lui. فَلَا يُطِيلُ بِهِمْ إِطَالَةً تَشِقُّ عَلَيْهِمْ. Donc il ne fasse pas de longues prières qui seront difficiles pour ceux qui sont derrière lui. وَلَا يَخِلُّ بِمَقْصُودِ الصَّلَاةِ فَيَنْقُرُهَا نَقْرًا. Et aussi qu'il ne vienne pas à nuire à la prière en la faisant comme c'est comme les mouvements du coq lorsqu'il picore. Il picore rapidement le coq. Et donc celui qui prie rapidement, on lui donne l'exemple du coq qui picore. Donc il n'a pas à faire cela car cette rapidité vient à nuire à la prière. بل تكون صلاته معتدلة نافعة يسمع فيها من يصلي خلفه القرآن من غير مشقة زائدة عليهم. Mais plutôt, sa prière, elle est médiane. C'est une prière bénéfique avec laquelle il récite d'une manière où les gens entendent convenablement le Coran sans la rendre la chose difficile pour les gens derrière lui. ومن العبادات المشروعة في هذا الشهر الكريم تلاوة القرآن كتاب الله العزيز. Et parmi les actes d'adoration légiférés pendant ce mois béni, il y a la lecture du Coran, le livre d'Allah le puissant. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, qui ne peut pas être touché par un mal ni devant lui ni derrière lui. وشهر رمضان هو شهر القرآن. Et le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Dans le sens du verset, le mois de Ramadan dans lequel a été descendu le Coran comme guidé pour les gens et comme preuve de guidé et de discernement. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرة كل عام وذلك في رمضان ودارسه إياه عام قبض صلى الله عليه وسلم مرتين في رمضان. Et il a été rapporté dans les deux authentiques de Bukhari de Muslim et dans d'autres ouvrages que Jibril, l'ange Gabriel, alayhi salam, faisait réciter le prophète, salam, le Coran, une fois pendant le mois de Ramadan, chaque année. Et l'année de ça, où son âme a été prise, alayhi salam, l'année de sa mort, le dernier Ramadan, jeûné par le prophète, salam, il lui a fait répéter à deux reprises pendant ce mois. وقد كان للسلف أحوال يطول ذكرها مع القرآن في هذا الشهر الكريم. Et les pieux prédécesseurs avaient des états connus pendant ce mois de Ramadan avec le Coran. Il est connu que beaucoup de grands savants et d'imams délaissaient toute préoccupation, même l'enseignement, pendant le mois de Ramadan pour s'adonner exclusivement à la lecture du Coran. والمقصود هنا التنبيه على أفضل ما يشرع من العبادات في هذا الشهر الكريم. Et ce qui est voulu ici, le but qui est voulu ici, c'est de parler sur les meilleures des adorations qui sont demandées pendant ce mois béni qui est le mois de Ramadan. وإن كان جنسها مشروع في غير رمضان. Bien que ces actes d'adoration, la nature même de ces adorations, elle est demandée en dehors du mois de Ramadan, lakin fadluha fi Ramadan akbar wa ajruha a'zam. Mais la vertu de ces adorations pendant le Ramadan, elle est bien plus grande et sa récompense, elle est bien plus énorme. Wa mimma yushra'u aydan fi hadha ash-shahr kathratul badhl wa as-sadaqat. Et parmi les choses qui sont demandées pendant ce mois, il y a le fait de faire beaucoup d'actes de générosité et de beaucoup de dons et d'aumônes. فَإِنَّ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Car cela fait partie de la tradition du prophète, l'élu, صلى الله عليه وسلم. فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. D'après Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des gens dans le bien. Et il est encore bien plus généreux pendant le mois de Ramadan, lorsque Jibril venait le rencontrer. Et Jibril alayhi salam venait à sa rencontre chaque nuit du mois de Ramadan jusqu'à que ce mois se termine. Et Jibril alayhi salam le rencontrait chaque nuit de Ramadan et le prophète alayhi salam lui récitait le Coran. Et lorsque Jibril venait à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était encore bien plus généreux que le vent envoyé. Dans la générosité, il était bien plus rapide que le vent qui circule. وَمِمَّا يُشْرَعُ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْكَرِيمِ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْإِعْتِكَافِ. Et parmi ce qui est légiféré pendant ce noble mois, parmi les actes d'adoration, il y a la retraite pieuse. وَلِاعْتِكَافُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الْعُكُوفِ وَهُوَ بِمَعْنَ الْإِقَامَةِ عَلَى الشَّيْءِ وَلُزُومُهُ. Et l'i'tikaf, littéralement, c'est de s'arrêter, de stationner, de s'arrêter sur une chose. Wa fi shar' at-ta'abbud lillahi 'azza wa jall bi luzum baytin min buyutillah min shakhsin makhsusin 'ala sifatin makhsusa. Et dans la religion, le sens religieux de ce terme, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal en stationnant dans une maison parmi les maisons d'Allah, dans une des mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela venant d'une personne bien précise et d'une manière bien précise. Wa huwa mashru'un fil masajid kulliha لعموم قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. Et il est légiféré dans toutes les mosquées pour la généralité de la parole divine dans le sens du verset, et ne les approchez pas, n'ayez pas de relations sexuelles avec vos épouses alors que vous êtes en état d'i'tikaf dans les mosquées. ولا حد لاكثره باتفاق. Et il y a l'unanimité sur le fait qu'il n'y a pas de limite, jusqu'à combien on peut faire l'i'tikaf. Sur le nombre final de l'i'tikaf, il n'y a pas de limite. Mais c'est sur le minimum qu'il y a la limite, et non pas le plus. Le maximum, je voulais dire. Il n'y a pas de maximum de jours à faire pour l'i'tikaf, et là-dessus il y a unanimité. Les gens n'ont jamais dit qu'au maximum il t'est permis que de faire tant de jours. Non, il n'y a pas de maximum. Mais dans le minimum, c'est là où il y a divergence entre les savants. وَاخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّهِ. Et ils ont divergé sur son minimum. فَمِنْ قَائِلٍ أَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. Il y en a qui ont dit que le minimum c'est une journée et une nuit. وَمِنْ قَائِلٍ بَلْ يَوْمٌ أَوْ لَيْلَةٌ. Et il y en a qui ont dit que le minimum, c'est seulement une nuit, ou alors une journée. وَمِنْ قَائِلٍ بَلْ سَاعَةٌ. Et il y en a, ils ont dit, c'est seulement une heure, c'est-à-dire un laps de temps. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بَلْ يَكْفِي الْمُرُورُ بِنِيَّةِ الْإِعْتِكَافِ. Il y en a même qui ont dit, le fait de passer dans la mosquée, être de passage, avec l'intention de faire l'i'tikaf, c'est compris aussi dedans. وَمِنْهُمْ من اشترط الصوم للاعتكاف. Et il y en a qui ont conditionné l'i'tikaf par le jeûne, que l'i'tikaf n'est considéré, n'est accepté que si la personne elle est en état de jeûne. والصحيح عدم اشتراطه. Et il dit l'opinion la plus authentique, c'est que ce n'est pas une condition pour l'i'tikaf. لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فاعتكف ليلة رواه البخاري ومسلم. Pour le hadith de Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه qui dit au messager d'Allah, j'ai fait vœu pendant l'époque pré-islamique, à l'époque de l'jahiliya, que je ferai l'i'tikaf une nuit dans la mosquée sacrée. Et le prophète sallam lui a dit, tu te dois de t'acquitter de ton vœu. Alors, fais l'i'tikaf pendant une nuit. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Rawah Al-Bukhari et Muslim. Wa yatajannabu al-mu'takif al-khuruj min al-masjid illa li hajat al-insan. Et celui qui en est à l'i'tikaf ne doit pas sortir de la mosquée, sauf pour une cause, hein, comme le besoin de l'humain, que toute personne, le besoin de chacun. Qui est d'aller au WC, aux toilettes, pour faire ses petits ou ses grands besoins. Fafi sahihain, anna al-mu'minin Aisha, radiallahu anha, qalat, wa in kana rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, la yudkhilu ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulu al bayt illa li hajatin idha kana mu'takifan hadha lafdh al bukhari wa zada muslim illa li hajati al insan. Et on retrouve dans les deux authentiques de Bukhari de Muslim, d'après la mère des croyants Aisha radiyallahu anha, qui dit, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait entrer sa tête dans ma demeure pour que je puisse le coiffer. Parce que la demeure de Aïcha radiallahu anha, elle était collée, toutes les demeures, elles étaient collées à la mosquée. Et il n'y avait qu'un rideau qui séparait la demeure de la mosquée. Il avait une entrée directe sur la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous la connaissez, la demeure de Aïcha. C'est là où il est enterré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, entre parenthèses, à ceux qui disent la tombe du prophète, elle est dans la mosquée, se trompent. La tombe du prophète n'est pas dans la mosquée. Elle est dans la maison de Aïcha, radiallahu anha. Mais elle est collée à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la maison de Aïcha ne fait pas partie de la mosquée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vivait dans cette maison. Et il avait des rapports avec son épouse. Et il mangeait, il buvait, il recevait des gens, comme tout le monde dans sa maison. Cet endroit ne fait pas partie de la mosquée. Et en tant que prophète, le prophète, tout prophète est enterré là où son âme est prise. Et son âme fut prise dans la demeure de Aïcha, radiallahu anha. Donc, cela n'est pas un argument pour ceux qui veulent faire entrer les tombeaux ou construire des mosquées sur les tombeaux, wal'iyadhu billah, des actes qui amènent au polythéisme et qui sont interdites par le prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, son corps, il était dans la mosquée, et il n'entrait que sa tête, alayhi sallatou wassalam, et il faisait introduire sa tête dans la demeure, et Aïcha, elle le coiffait. Et il n'entrait dans la demeure que si il n'avait un besoin pressant, puisqu'il était en état d'i'tikaf. Ça, c'est la version de Al-Bukhari. Et l'imam Muslim lui a rajouté, sauf pour le besoin de l'humain. Ni le besoin que tout être a besoin. وفسرها الزهري رحمه الله بالبول والغائط. Il y a l'imam Ibn Shihab al-Zuhri, un des grands professeurs de l'imam Malik, rahimallahu al-jami'. L'imam al-Zuhri a expliqué, sauf pour le besoin de l'homme, par d'aller faire ses grands besoins ou ses petits besoins. وكذلك يجوز له الخروج من المسجد للأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضر الطعام والشراب في معتكفه. De même qu'il lui est permis de sortir pour aller manger et boire. Mais il ne sort que pour ça, cette raison-là. Si il n'y a personne pour lui ramener à boire et à manger dans son lieu d'i'tikaf. وإذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه جمعة وأدركته الجمعة وجب عليه الخروج ليصليها في مسجد تقام فيه الجمعة. Et si il fait l'i'tikaf dans une mosquée dans laquelle on n'accomplit pas la prière du vendredi, et donc là on comprend que le shir, il est d'avis qu'on a le droit de faire l'i'tikaf dans une mosquée dans laquelle on ne fait pas le jumu'a. Et que l'heure du vendredi arrive, alors c'est un devoir pour lui de sortir pour aller accomplir la prière du vendredi dans la mosquée dans laquelle on fait le vendredi et de revenir directement après à son lieu d'i'tikaf. وَلَا يَخْرُجُ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحَوَائِجِ لَا لِعِيَادَةِ مَرِيدٍ ولا لاتباع جنازة ولا غيرها إلا إذا شرطها.
Et il ne sort pas pour d'autres raisons, comme par exemple pour aller visiter un malade. Il n'a pas à le faire. Ni pour suivre un convoi funèbre. Il n'a pas à le faire. Ou autre chose. Sauf s'il l'a mis comme condition pour son i'tikaf.
Wal-jima' yufsidu l'i'tikaf bil-ijma'.
Et les relations sexuelles avec l'épouse viennent à annuler l'i'tikaf. Et là-dessus, il y a unanimité.
وَيَجُوزُ لِزَوْجِ الْمُعْتَكِفِ وَأَهْلِهِ زِيَارَتُهُ فِي مُعْتَكَفِهِ لِفِعْلِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَزْوَاجِهِ.
Et il est permis à l'épouse de celui qui est en état de mu'takaf et à sa famille de venir lui rendre visite pendant son i'tikaf. Ils peuvent rentrer, venir lui rendre visite pour l'action du prophète عليه الصلاة والسلام avec ses épouses.
فعن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك.
Al-Hadith Rawahu al-Bukhari. Hein, on a le hadith du tabi'i Ali ibn al-Hussein, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée en état d'i'tikaf. Et il y avait avec lui ses épouses qui sont venues le visiter. Puis elles sont parties. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une d'entre elles, qui est Safiya bint Huyay, c'est Safiya bint Huyay ibn Akhtab, c'est une hébreu, qui est la mère des croyants, radiallahu anha, qui est d'origine juive, et dont le père était un des grands rabbins des juifs de l'époque, un des grands savants juifs et ennemi de l'islam. Et cette femme, elle devint l'épouse du prophète sallam qui était musulmane, elle s'appelle Safiya bint Huyay ibn Akhtab radiyallahu ta'ala anha. Pour anecdote, une fois ses co-épouses, elles l'ont un peu taquiné en lui disant: mais tu es d'où? D'où tu viens? Quelle est ton origine? Elle a été attristée et elle s'en est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: dis-leur, ô Safiya, dis à tes co-épouses que tu descends d'un prophète, parce qu'elle descend de Haroun alayhi salam. Alors lignée, elle est connue. Et que ton oncle est un prophète, parce que Haroun, c'est le frère de Moussa, alayhi salam, et que tu es l'épouse d'un prophète. Comment on peut taquiner une personne qui a cette lignée-là? Subhanallah. Et aussi pour anecdote, pour en parenthèse, des erreurs qui sont commises par certains, c'est des propos qui sortent de leur bouche, et je sais que beaucoup ne font pas attention à ce qu'ils disent. Ils disent, pour par exemple les Hébreux, les Juifs, là, je répète ce qu'ils disent, bien que ce n'est pas des mots à dire, sale race. A'udhu billah. Celui qui fait cela a insulté la race des prophètes. Les Hébreux font partie d'eux. Leur ancêtre, c'est qui? C'est Ibrahim alayhi salam. C'est Ishaq alayhi salam. Et Yaqub qui lui-même s'appelle Israël. C'est pour ça qu'on appelle les enfants d'Israël, ça veut dire les enfants de Jacob. Parce que Yaqub, il a comme nom Israël. Et c'est aussi Youssef alayhi salam, c'est Moussa, c'est Haroun, c'est Suleyman, Daoud, c'est Zakaria, c'est Yahya, c'est Issa alayhi salatu wa salam. Comment quelqu'un peut dire ce genre de propos? Wal'iyadu billah. Donc attention, jamais, il n'y a pas de racisme en islam. On ne parle, si on veut parler, que des gens mauvais, des personnes mauvaises, de ces personnes-là. Amma de dire la race, là, on touche les prophètes. Et Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, a écrit un article très important qui avait été traduit, concerne le terme Israël. Et il y en a parce que les Juifs, ils ont un état qui s'appelle Israël. Et pris de colère, ils insultent Israël. D'insulter comme ça Israël, on s'en prend au nom du prophète. Donc attention à ce que profère notre langue. Parce qu'on peut tomber dans un mal de là où on ne le voit pas. Allahul Musta'an. Tayyib. Donc, il lui a dit, oh sa fille, ne t'empresse pas jusqu'à que je te raccompagne. Jusqu'à que je te raccompagne. Il l'a raccompagné jusqu'à l'entrée de la mosquée. Le hadith rapporté par Al-Bukhari. وَيَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَسْتَشْعِرَ حَقِيقَةَ هَذِهِ الْعِبَادَةِ. Et il est important pour le mu'takif qu'il ressente la réalité de cette adoration. Qu'il ne soit pas à la mosquée, hein, comme dans n'importe quel autre endroit. Il discute, hein, de tout et de rien. Il oublie qu'il est en état d'i'tikaf. Il se doit pendant son i'tikaf de se rappeler qu'il est en état d'i'tikaf. S'il y a des gens qui rentrent à la mosquée pour la prière, qui ressortent, eux, ils ne sont pas en état d'i'tikaf. Mais toi, tu es en état d'i'tikaf, tu dois remplir ton temps par les adorations. وَنْ يَمْلَأَ وَقْتَهُ فِي الْمَسْجِدِ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ. Et qu'il remplit son temps dans la mosquée par toutes sortes d'adorations. مِنْ صَلَاتٍ وَتِلَاوَةٍ لِكِتَابِ اللَّهِ وَذِكْرٍ وَدُعَاءٍ وَاسْتِغْفَارٍ. Hein, qu'il fasse des prières, qu'il lit le Coran, qu'il fasse du rappel, du zikr, qu'il fasse des invocations, la demande de pardon. وَالتَّنْوِيعُ بَيْنَ الْعِبَادَاتِ يَبْعَثُ الْعَبْدِ عَلَى النَّشَاطِ فِي الْعِبَادَةِ وَعَدَمِ الْمَلَلِ فَيَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ الْأَجْرُ الْكَثِيرُ. Et le fait de faire de temps à autre telle et telle ibada, de changer les ibadats, hein, ça donne de la force à la personne et de la volonté à la personne, parce que si il reste dans la même adoration, eh bien il se peut qu'il s'en lasse. Et il gagnera par cela la grande récompense. Tayyib. Puis le cheikh continue à parler concernant l'i'tikaf. Puis, il termine par un dua. Donc, parce qu'Inch'Allah, on va clore. Et puis, il a terminé avec l'i'tikaf. Et puis, donc, on termine. Il dit, Allahumma ja'anna mimman adraka hadha al-shahr al-karim wa waffaqtahu fihi lis-siyam wal-qiyam wal-dhikri wal-du'a wa sa'ir at-ta'at Allahumma waj'al 'amalana fihi salihan wa liwajhika khalisan Allahumma waj'alna fihi min 'utaqa'ika min an-nar Allahumma waj'alna mimman adraka laylatal qadr fa katabta lahu fiha 'azimal ajr Allahumma waffiqna للأعمال الصالحة بعد رمضان واعده علينا أعواما عديدة والأمة الإسلامية في خير حال يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.